Novembre est le mois de l'ESS, autrement dit de l'économie sociale et solidaire.
Associations, mutuelles, coopératives, nous sommes des milliers de bénéficiaires ou d'acteurs à prendre part à cette économie vertueuse qui donne la priorité aux principes de solidarité, d'utilité sociale et d'équité.
Connaître l'ESS, la développer et surtout la défendre, c'est ce que vous propose Radio FM+, en 13 émissions diffusées entre le 2 et le 30 novembre à 10h10.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio FM+, dans ce 10-10, Magali sera là avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième journée nationale de prévention des chutes qui aura lieu le lundi 17 novembre à Montpellier et sur quelques communes de la métropole de Montpellier avec le professeur Hubert Blin, chef du pôle de gériatrie du CHU de Montpellier et responsable du centre régional équilibre et prévention des chutes. Nous accueillerons également Jean Maillet pour un témoignage sur le sujet. Bonjour professeur Blin, merci d'être avec nous. La prévention des chutes chez les personnes des plus de 65 ans, est au cœur d'un enjeu de santé publique qui nous concerne tous directement dès le plus jeune âge. Alors pourquoi avoir créé cette journée nationale ?
Alors cette journée finalement s'intègre dans le cadre du plan national prévention des chutes qui a été lancé en 2022, donc par le ministère de la Santé, répond à un enjeu effectivement de santé publique, puisque les chutes entraînent chaque année plus de 100 000 hospitalisations après 65 ans et plus encore après 70, 75 et 80 ans, et plus de 10 000 décès. Donc, c'est-à-dire c'est trois fois plus de décès que les accidents de la route. Ces chutes entraînent des fractures, en particulier de hanches, ce qu'on appelle la fracture du col du fémur. En France, il y en a à peu près 70 000, tous les ans. Et c'est souvent une rupture dans la vie des personnes, puisque la plupart du temps, elles vont perdre de l'autonomie et voir cette perte d'autonomie conduire à une institutionnalisation. Indépendamment des blessures, la chute n'est pas un phénomène banal chez les personnes à partir de 65 ans, parce que souvent cette chute va entraîner un sentiment de vulnérabilité, une peur de tomber qui va limiter les activités. Les personnes vont hésiter à sortir bien quand c'est un petit peu humide ou un petit peu glissant. Et c'est souvent cette chute qui est finalement une espèce de rupture qui entraîne un repli sur soi et qui va progressivement elle-même entraîner une perte d'autonomie. Et puis, sur le plan des coûts, puisque c'est un sujet important, l'objectif est de faire de la prévention pour faire des économies de manière à ce que les personnes vivent le mieux possible à la maison, mais aussi tout ça a un coût important qui est aux alentours de 2 milliards d'euros.
Oui, c'est ça. Effectivement. J'avais vu les statistiques et c'est un véritable enjeu économique en fait.
Hein. Alors voilà, de perte d'autonomie, les 2 milliards, c'est vraiment les complications immédiates, hein, les hospitalisations, les blessures, etc. Mais c'est sans compter donc ce cercle vicieux de perte d'autonomie qui peut s'enclencher après une chute. Or, il y a la possibilité d'évaluer son risque et de mettre en place des mesures qui vont être adaptées, même chez les personnes qui sont multichuteuses, etc.
Alors, je sais que dans cette évaluation des chutes, il y a différents niveaux. Des risques vraiment accrus, puis modérés et puis faibles. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces différentes...
Alors oui, il y a un groupe international qui s'est réuni justement en 2022 pour essayer de définir ce qu'est un risque faible, modéré ou élevé. Évidemment, l'objectif, c'est de mettre des mesures qui vont être adaptées au niveau de risque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque élevé ? C'est une situation où on risque de faire des chutes graves dans l'année qui suit. C'est en particulier des personnes qui ont fait des chutes et qui n'ont pas réussi à se relever. des personnes qui ont fait des chutes multiples dans les derniers mois, quel que soit le contexte, il y a souvent une explication, mais avoir fait une ou plusieurs chutes, ça n'est pas banal, ça doit faire l'objet d'une évaluation par un médecin.
Et puis ça doit éveiller en fait la conscience, ça doit éveiller un petit quelque chose à la fois chez les personnes qui chutent, mais aussi chez les aidants, chez la famille, les accompagnants, ça doit être quelque chose qui doit alerter.
Bah, il faut changer de paradigme, quoi. Les personnes qui chutent considèrent que c'est toujours de la faute de l'environnement. Il y avait quelque chose qui fait que je suis tombé. Non, il faut réfléchir à « je suis incapable de m'adapter à l'environnement ». Je n'ai pas vu un trottoir, je n'ai pas vu quelque chose qui m'a déséquilibré. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y aura le même type d'événement, il est hautement probable que je vais là encore faire une chute. Donc clairement, cette chute, c'est pas de la faute de l'environnement. La preuve, c'est qu'avant 65 ans, on vit tous le même environnement, on ne fait pas de chute. C'est vraiment le premier signe que je suis moins adapté à l'environnement et donc il va falloir que je mette en place un certain nombre de mesures d'évaluation et vérifier qu'il n'y ait pas de problème oculaire ou tout simplement faire plus d'activité physique de manière à avoir un meilleur équilibre, de manière à se sentir plus à l'aise quand on marche. Donc finalement, même avant la première chute, le fait de penser à sa marche, d'être obligé de faire attention quand on marche ou d'anticiper les choses, c'est déjà anormal. Et ça doit faire l'objet finalement d'une attention particulière des personnes âgées et de l'entourage. Quand on commence à ralentir sa marche parce qu'on est obligé de faire plus attention, eh bien, à ce moment-là, quand on a du mal à gérer une seconde tâche, par exemple, tenir un objet dans ses mains et en même temps être obligé de faire attention, donc quand on marche, c'est déjà anormal et ça doit faire l'objet d'une attention et donc globalement peut-être d'activité physique de manière à travailler ces doubles tâches, de manière à ce que quand je suis amené à faire une seconde tâche en marchant, eh bien, je ne me mette pas à risque de chute.
Alors, justement, il y a à la fois cette prévention qui est déclinée par des bilans qui va être donc proposé par le 17 novembre dans différentes communes de la métropole de Montpellier, notamment sur Castelnau, Le Lez, Marcillargues, Le Gros-du-Roi, Lunel, Latte, Juvignac. Montpellier a plusieurs pôles de la ville. Comment ça se passe exactement? Expliquez-nous comment le public va être pris en charge à ce moment-là.
Alors, cette journée, elle va comporter une conférence grand public déjà le matin, justement pour informer les personnes de comment je fais pour évaluer mon niveau de risque. Donc, on a dit tout à l'heure, les personnes qui sont à haut risque de chute sont celles qui ont fait une ou plusieurs chutes dans les derniers mois, qui ont eu du mal à se relever. Des personnes qui donc ont peur de tomber et qui sont tombées. Des personnes qui sont fragiles, donc qui sont en train de perdre l'autonomie. Et la chute, dans ce contexte, n'est qu'un élément supplémentaire de la fragilité de la personne. Ou des chutes sans aucune raison. C'est-à-dire que les personnes se sont retrouvées au sol et ne savent pas exactement ce qui est arrivé. Donc, et évidemment, ça va entraîner une anxiété importante, on ne peut plus moins sortir seul, etc. Ça, ce sont des chutes graves. Ensuite, les chutes, on va dire, le risque modéré, ce sont des personnes qui ont peur de tomber, qui se sentent instables en se mettant debout ou en marchant, et qui vont avoir les premiers signes physiques, finalement, d'un équilibre qui est précaire. C'est-à-dire, en gros, on va mesurer la vitesse de marche, on va mesurer un test qui est mesuré dans le monde entier, qu'on appelle le Timed Up and Go Test. On va demander aux personnes de se lever d'une chaise, d'aller jusqu'à un mur, de revenir, de s'asseoir. Et il y a des abacs qui permettent de se dire, voilà, vous êtes à risque faible, vous vous débrouillez très bien. À ce moment-là, on remettra aux personnes donc des flyers avec, on va dire, des mesures générales de prévention des chutes, aller voir régulièrement son ophtalmologiste de manière à traiter la cataracte quand elle va survenir, avoir des verres de lunettes adaptées. Qui sont adaptées, quels sont les risques du domicile principaux qui amènent à tomber, comment est-ce qu'on fait pour aménager sa salle de bain en particulier, oui. Voilà. Ensuite, l'importance de l'activité physique, donc ça, finalement, ce sont ce qu'on doit faire en général quand on vieillit. Et puis pour le risque modéré, par contre, là, on proposera pour les personnes qui le souhaitent de l'activité physique adaptée. Et c'est un partenariat avec Pierre-Louis Bernard en particulier.
Nous allons en parler.
Voilà, l'UFR STAPS qui va finalement mettre à disposition ces groupes d'activités physiques adaptées, et en particulier par le biais de l'association FEPCAS, si on a peut-être une minute pour en parler, donc qui est une association de patients qui propose des sessions d'activités physiques adaptées qui sont gratuites pour les personnes justement qui seront trouvées à risque modéré de chute. C'est vrai que les personnes qui sont à haut risque, probablement on les orientera plutôt vers un kinésithérapeute de manière à faire du travail individuel, et en particulier donc pour travailler l'équilibre, bien sûr les doubles tâches, on en a parlé, mais aussi le relevé du sol. Parce que quand quelqu'un est resté au sol, eh bien ça a une teneur particulière. Les personnes se sentent extrêmement vulnérables, vont limiter considérablement leur sortie à la maison. Et tout ça va être vraiment un élément qui marque les gens. On peut parler de syndrome post-traumatique.
Exactement, parce qu'au niveau de l'impression, de la sensation au niveau cérébral, une fois qu'il y a une chute, il y a une sensation négative qui va générer une appréhension, une peur, et donc une possibilité beaucoup plus accrue de retomber.
Exactement. Et puis, c'est un fardeau important pour les proches qui vont être extrêmement stressés en se disant, oh là là, s'il y a de nouveau une chute, comment les choses vont se passer? Comment la personne va être en capacité d'appeler, etc. Et donc, c'est un fardeau pour la personne, pour l'entourage. Effectivement, il est souvent difficile de relever seule la personne, et donc ça va faire beaucoup d'appels au 15 de manière à relever la personne. Et c'est vrai qu'après quelques appels au 15, la plupart du temps, malheureusement, c'est souvent une indication d'institutionnalisation, et c'est exactement ce que veulent éviter les personnes, les proches, etc. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de s'y prendre à toutes les phases. Évidemment, si on a déjà fait des chutes, si on commence à penser à sa marche, si on commence à avoir un peu peur de tomber, si on se dit, ben voilà, j'allais en garrigue, aucun problème, mais maintenant c'est vrai que j'hésite à le faire parce que j'ai trébuché, je suis tombé, ou clairement je fais attention d'aller sur la place de la Comédie quand il y a beaucoup de monde parce que je risque d'être bousculé, ou il est tombé des feuilles par terre, c'est le moment en ce moment, et donc c'est humide, et donc je fais attention. Donc dès qu'on commence à penser à ce risque de chute, globalement, il faut se faire évaluer.
Donc, avant que vous nous parliez de l'association, je vais quand même resynthétiser pour nos auditeurs. Pensez à aller consulter votre ophtalmo, l'ORL également, parce que le fait d'avoir une bonne audition est importante dans la posture, dans le fait d'être confiant en soi. D'aller également vers son pédicure ou son podologue, car dans les documents que vous m'avez transmis, il y a cette évaluation-là aussi pour permettre une meilleure posture dans son corps, donc au niveau des pieds, de l'évaluation des pieds.
Le pied joue un rôle majeur dans l'équilibre. Et c'est vrai que le fait de voir tous les ans au moins un podologue pédicure, d'avoir un chaussage qui est adapté, voire mettre en place des semelles plantaires thermoformées qui vont permettre d'avoir finalement un appui au sol avec un maximum d'informations, on dit somesthésique, hein, de sensibilité profonde et importante. C'est un petit peu l'image de la voiture, hein. C'est vrai, quand on a les pneus lisses, ben, évidemment, ça tient beaucoup moins bien la route, même si on a une voiture puissante, et d'autant plus qu'elle est puissante, d'ailleurs, on est à risque de glisser et de tomber. Donc, le pied joue un rôle important, la cheville va jouer aussi un rôle important. Ça veut dire que dans l'activité physique, dans la rééducation qu'on va proposer, jouer vraiment sur la stratégie de cheville, de hanche, le fait de bien utiliser son dos, un petit peu comme les funambules, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de manière à ce que les personnes retrouvent confiance dans leur équilibre.
Alors, il y a des choses aussi qui sont beaucoup plus micro, on va dire, comme l'occlusion dentaire, qui joue un rôle dans l'équilibre, dans la posture, puis la position du regard, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui est très importante également. Donc, si vous avez tendance à regarder vers le bas, s'il vous plaît, regardez devant vous.
C'est ça. Et puis enfin, il y a les médicaments hein, qui jouent un rôle majeur. C'est vrai que l'objectif, c'est d'utiliser le moins de psychotropes, donc de médicaments pour dormir, si possible, pas d'antidépresseurs ou en tout cas la dose la plus faible. Éviter certains médicaments donc, qui vont baisser la tension quand on se met debout, etc. Et c'est vrai que ce sont des règles générales, ça. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont déjà tombées, qui ont, donc sont à haut risque de chute, cette évaluation qui peut être faite par exemple dans le centre équilibre prévention des chutes au CHU de Montpellier, si les personnes le souhaitent via leur médecin traitant, eh bien là ça permet de refaire un point global en allant effectivement des pieds, de la cheville, des performances physiques, vérifier qu'il n'y ait pas eu de malaise, vérifier qu'il n'y ait pas de problème cardiaque, qu'il n'y ait pas de médicaments pour la prostate par exemple qui entraîne une hypotension quand on se met debout, revoir complètement l'ordonnance et finalement avoir finalement des conseils clés en main pour le médecin traitant et pour la personne. Et je vous l'ai dit, souvent ça va se terminer quand même aussi par de l'activité physique adaptée, puisque clairement être très adapté à son environnement, c'est améliorer les choses. Et puis enfin, dans ce type de centre, on compte l'ergothérapeute.
Oui.
Parce que l'ergothérapeute va être capable d'anticiper le risque de chute à la maison. Et l'ergothérapie, c'est vrai, a beaucoup évolué, hein, adapte l'environnement à la personne, mais aussi les activités de la personne à son environnement. C'est souvent lors d'une inadaptation à son environnement que finalement la chute survient. Donc, voilà, on va regarder les personnes vivre dans leur logement et on va se rendre compte que telle activité est potentiellement dangereuse. On peut peut-être la modifier de manière à ce que la personne garde son autonomie et en même temps puisse finalement réduire le risque de chute.
Donc, ça passe par des tapis que l'on enlève, ça passe par des barres que l'on met dans les douches. Ça passe par des tabourets adaptés, ça passe par quoi encore ?
Ben, par le fait en particulier que les rampes souvent s'arrêtent à la première et à la dernière marche. Et c'est vrai que l'instabilité, elle arrive souvent quand on a passé le seuil, etc. Donc le fait par exemple d'avoir des barres dans les escaliers qui débordent l'escalier de manière à ce qu'on puisse se stabiliser quand on est arrivé ou en haut ou en bas, vous voyez, c'est une petite chose qui est tout à fait simple. Un ergothérapeute va regarder s'il y a un seuil qui est potentiellement dangereux, qu'on peut adapter. C'est en fait en regardant la personne vivre dans son logement qu'on va se rendre compte des dangers du logement. Donc c'est vrai que on travaille beaucoup avec l'ETAP et le pôle autonomie santé de Lattes en particulier, hein, qui met à disposition des ergothérapeutes qui peuvent venir au domicile justement pour avoir cet avis de professionnel pour réduire l'incidence des chutes. Et dans toutes les études, la visite d'un ergothérapeute chez quelqu'un qui est à haut risque de chute va réduire de 20% en gros le risque de chute. Donc vous voyez, c'est une mesure aussi qui est très importante.
Alors, je voudrais maintenant que vous puissiez nous parler de cette fameuse association.
Alors, cette association France Équilibre Prévention des Chutes Autonomie Santé, la FEPCAS, a été créée en 2014, je crois. Elle est unique en France, hein, puisque l'objectif, c'est faire de Montpellier agglomération et à terme de l'EMI région Occitanie-Est, l'une des zones géographiques finalement phares du plan national anti-chute. Et nous avions besoin d'impliquer les patients eux-mêmes, les familles de patients qui ont vécu un problème de chute chez leurs proches, de manière à finalement avoir leur témoignage et servir finalement de témoin, de manière à ce que les personnes qui banalisent peut-être ces troubles de l'équilibre et les chutes puissent finalement entendre finalement l'histoire du patient. Et c'est vrai que souvent, quand c'est un médecin comme moi qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, c'est souvent considéré comme finalement un avis de professionnel. Et c'est bien d'avoir une association de patients qui va relayer cette information et expliquer, un, pourquoi il faut vraiment tenir compte de ce risque, et deux, surtout, le fait que les mesures proposées sont extrêmement efficaces, et en particulier ce qu'on propose évidemment dans le centre, mais plus généralement dans tous les groupes d'activités physiques adaptées, et en particulier ceux qui sont proposés par cette association. Donc vous pourrez trouver les coordonnées de cette association sur le site.
De la radio, bien sûr, puisque c'est la semaine de l'économie sociale et solidaire. Nous allons faire notre pause musicale avec un titre qui est « Stayin' Alive » des Bee Gees. Alors, ce titre a été choisi pour une raison. Laquelle ?
Alors, staying alive, c'est bien. L'objectif, c'est même en vieillissant, l'objectif, c'est de rester vivant et se déplacer, aller voir ses proches. Mais le rythme, écoutez bien le rythme, parce que c'est le rythme du massage cardiaque. Si jamais vous êtes confronté à quelqu'un pour lequel il y a un malaise, eh bien, entraînez-vous à ce rythme, parce que c'est le rythme donc du massage cardiaque.
On écoute. Voici de retour dans ce 10-10 sur Radio FM+, Magali Sorel avec vous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette partie de matinale. Nous sommes avec le professeur Hubert Blin qui nous parle de cette deuxième journée nationale de prévention anti-chute qui se déroulera sur Montpellier Métropole lundi 17 novembre. Donc, nous accueillons également à l'antenne Jean Maillet pour un témoignage. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? À quoi avez-vous été confronté, Jean ?
Eh bien, j'étais ce week-end chez mes beaux-parents et j'ai pu assister, si je puis dire, à la chute de mon beau-père qui n'a jamais réussi à se relever du siège des toilettes et qui s'est effondré par terre. Et je me suis rendu compte à cette occasion de la difficulté qu'il y avait quand on a quelqu'un qui est comme une sorte de corps, j'allais dire mort, c'est pas le bon terme, mais un poids mort, de tenter de le relever. Quels sont les bons gestes? Comment on fait? Est-ce que c'est simple? Parce que à un moment donné, la personne est en panique et c'est bien normal. Et on se retrouve soi-même un peu en difficulté pour soit la remettre sur un siège, soit l'amener vers son lit. C'est des gestes qu'il faut aussi connaître, j'imagine, parce que on peut se faire très mal au dos. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est personnel à personne aidante, mais on se rend compte que, par exemple, ma belle-mère aurait été dans l'incapacité complète de faire quoi que ce soit et aurait été dans la situation de devoir appeler le 15, alors que peut-être il y a effectivement des gestes et des postures à trouver, des places à prendre pour que deux personnes, même âgées, puissent réussir à être encore autonomes sur ces moments-là qui, à l'évidence, ne peuvent que se reproduire parce que, comme vous l'avez dit, il y a une sorte de mémoire qui s'installe et je pense que les personnes s'inhibent après sur beaucoup de gestes. Voilà, donc c'était un témoignage d'aidant ponctuel, mais confronté à une situation inattendue et la chute est vraiment... un souci pour les
Alors,
dents.
Face à ce côté impromptu, comment avez-vous réagi? Quelles ont été les questions qui sont passées dans votre tête?
Eh ben, de comprendre l'endroit où il était tombé en sortant des toilettes, dans un endroit qui est forcément entouré de murs, comment prendre la personne, par quel bout, si je puis dire, la prendre. Moi, l'idée, c'était peut-être d'aller un peu dans l'arrière et d'essayer de la soutenir sous les bras et d'essayer de l'aider à remonter. Mais mon beau-père n'arrivait absolument pas à reprendre un équilibre. Et donc, au final, heureusement, mon fils était là. On était deux. On a réussi, j'allais dire, à le porter jusqu'à son lit pour le recoucher, parce qu'il n'était pas question de le ramener à un siège à ce moment-là, compte tenu un peu du stress qui était le sien et puis aussi le nôtre. Je pense qu'on est un peu paniqué dans ces moments-là. Enfin, en tout cas, paniqué, inquiet, en tout cas.
Et depuis, comment réagit-il à cet épisode-là? Oh,
c'est un homme très âgé, donc bon, c'était pas la première fois. C'était la première fois qu'il le faisait.
Voilà. En votre présence.
En notre présence. Mais bon, en discutant avec l'infirmier qui vient le voir tous les jours, la seule solution, quand il n'y a personne qui soit, j'allais dire, qui ait la force physique pour faire quelque chose, c'est d'appeler le 15, qui a des équipes spécialisées pour aider à relever les personnes. Ils n'envoient pas une ambulance complète, à ce qu'on m'a expliqué. Ils envoient deux pompiers costauds et formés à ces gestes pour remettre les gens soit dans un fauteuil, soit dans un lit.
Professeur Hubert Blanc.
Oui, je pense que le relevé du sol, c'est majeur. Et en particulier, quand on sait qu'on va être en difficulté pour se relever du sol, c'est un élément de gravité qui est majeur, parce que les personnes vont avoir peur plus encore de tomber. Et cette peur de tomber elle-même est facteur de risque de chute. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à se relever du sol. Et c'est vrai que ça s'apprend tôt. Vous pouvez trouver des vidéos sur Internet, il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche « relever du sol » et vous avez finalement la méthode pour se relever. Et c'est vrai que souvent, plutôt que de tirer de façon anarchique sur les bras du patient et puis de le prendre un petit peu partout, par la taille, par ce qu'on peut, quoi, l'idée c'est de favoriser la participation de la personne. Et en particulier, lui demander de se remettre sur le ventre, puis ensuite de mettre un genou, de manière à faire progressivement de se remettre à quatre pattes, puis progressivement de se mettre en chevalier servant, en tout cas d'être à quatre pattes jusqu'à un objet sur lequel on peut s'appuyer, puis ensuite de se mettre en chevalier servant. Et souvent, c'est à ce stade où les personnes ont un peu de mal à terminer le relevé. Mais à ce moment-là, déjà, la personne peut déjà participer et quelqu'un qui est à côté va pouvoir aider à faire cette dernière phase de verticalisation. C'est pour ça que pour ces personnes à haut risque de chute, finalement, outre le travail des réactions parachute, l'équilibre, le renforcement musculaire au niveau des membres inférieurs, parce que quand on n'a plus assez de force, on ne peut plus se relever. Mais aussi, le travail du relevé du sol et de le faire avec les aidants joue un rôle très important.
Alors, donc, dans cette deuxième journée nationale, vous allez avec votre collègue Pierre-Louis Bernard expliquer tout cela, je suppose.
Oui, donc il y a une conférence grand public qui va avoir lieu donc le lundi 17 de 9h30 à 11h30. Donc nous sommes invités à l'hôtel de ville de Montpellier, dans la salle des rencontres. Cette salle est évidemment très pratique d'accès, puisque le tram passe juste devant, le tram, les trois lignes, 1, 3, 4, et puis C'est l'arrêt Moularès Hôtel de Ville, donc c'est simple, même si les personnes ont un peu des difficultés à se déplacer. Donc de 9h30 à 11h30, on va dépasser le cadre de la prévention des chutes, mais en général parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour rester autonome à la maison. Et l'un des points, ça sera donc la prévention des chutes. Mais on débordera largement, ce sera une conférence finalement...
pluridisciplinaire.
Oui, et puis surtout longévité, quoi. Longévité en santé. Et là-dedans, on parlera tout à la fin avec Pierre-Louis Bernard de comment on fait pour se dépister et comment finalement quoi faire en fonction de la situation. Donc, c'est vraiment un partenariat qu'on souhaite avec l'UFR STAPS, Pierre-Louis Bernard, avec Alain Ségu aussi, qui a été le premier président de la FEPCAS. Puisqu'on souhaite vraiment associer donc les patients et les familles de patients. Et puis, l'après-midi, pour les personnes qui le souhaiteront, alors sur rendez-vous, eh bien, on fera des évaluations gratuites avec donc des conseils. Alors, à l'Hôtel de Ville, mais dans d'autres sites de Montpellier. Alors, au centre Antonin Balmès, par exemple, il suffit là aussi d'envoyer d'appeler le 04 67 33 09 23. On va peut-être mettre tous les numéros sur le site, de manière à avoir finalement le lieu le plus proche pour se faire évaluer. Donc, ça sera l'après-midi de 14h à 17h, donc sur trois sites de Montpellier, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Castelnau-le-Lez, Juvignac, Latte, Lunel, Le Gros-du-Roi et Marcillac, qui sont les villes qui sont partenaires de cette seconde journée qui avait été un grand succès l'année dernière. Il y avait beaucoup de monde qui était venu chercher de l'information, se faire évaluer. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont été intégrées dans des groupes d'activités physiques adaptées avec des retours qui sont incroyablement bons. Hein. La plupart du temps, quand vous retrouvez de l'équilibre, de la confiance en vous, eh bien, vous allez de nouveau revoir vos amis, vous reprenez de l'autonomie dans les activités, dans la vie quotidienne. Donc, c'est pas seulement prévenir les chutes, mais c'est aussi reprendre confiance générale en soi. Et c'est vrai que souvent, ça va rompre un cercle vicieux d'isolement, une perte d'autonomie. Donc, c'est vraiment finalement un programme global qui permet finalement d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées.
On dit que c'est à partir de l'âge de 60 ans qu'il faut vraiment se focaliser sur l'assouplissement du corps pour garder justement bien les articulations bien mobiles, manger sainement de manière à avoir, mais sereinement également, hein, parce que manger sur le stress, c'est pas terrible, mais pour garder justement de la tonicité musculaire, etc. Ce sont autant de choses que vous allez aborder dans cette conférence grand public.
Oui, on le voit, l'équilibre, mais aussi le muscle joue un rôle très important. Hein. Votre muscle, c'est un petit peu votre assurance vie. Hein. C'est tant que vous conservez du muscle, eh bien, vous avez des protéines pour faire face à une fracture, à une plaie, à n'importe quelle, à une infection, etc. Donc, tout ce qui va favoriser le maintien de la masse musculaire, de ne pas prendre trop de masse grasse, et de garder la possibilité de faire du mouvement de manière à faire du lien social, parce que ce point-là est majeur, eh bien, tout cela sera abordé dans la conférence grand public, mais on abordera tous ces points-là lors des évaluations qui auront lieu donc de 14h à 17h. Peut-être juste un dernier numéro de portable, le 06 71 00 60 82, qui est celui de Pierre-Louis Bernard, de manière à prendre rendez-vous, à savoir où se trouvent les lieux les plus proches et avoir toutes les informations, peut-être que je n'aurais pas données aujourd'hui.
De toute façon, toutes les informations seront retrouvées sur le site de Radio FM+, pour savoir tout de cette journée, les mails, les numéros de téléphone.
Peut-être encore une dernière information, venez avec votre téléphone portable, puisque nous pourrons télécharger une application qui s'appelle AppChute, de manière à ce que les personnes puissent avoir de l'information si elles le souhaitent et se faire suivre.
Voilà, ça c'est une information capitale. Merci Jean Maillet, merci professeur Hubert Blin pour ce partage d'informations. C'était le 10-10. Thank you.